c'est pas une racine qu'on a là, c'est une racine champignon. Et ce sont ces petites racines-là, ces millions de petites racines, ces centaines de millions de petites racines qui vont absorber ces éléments nutritifs. Ce réseau mycélien, il peut couvrir des kilomètres carrés. Donc si on essaie de calculer grossièrement, la moitié de la masse de la forêt, c'est du champignon.
Et à l'instant, la voix du microbiologiste Francis Martin en 2005 pour parler de l'avenir des arbres sur la planète qui se jouera dans le sol des forêts. Champignons et bactéries sont ensemble à la une de la science, Axel Villard.
Et oui Mathieu, et c'est une publication d'envergure qui va nous intéresser aujourd'hui. 200 chercheurs répartis sur plus de 80 pays qui publient ensemble la première cartographie mondiale des symbioses microbiennes d'arbres, l'association des arbres et des micro-organismes du sol, bactéries et champignons. Grâce à cette carte, les chercheurs sont en mesure d'imaginer l'avenir des forêts dans un monde qui se réchauffe et où les symbioses vont changer. Pour en parler, nous recevons l'un des auteurs de ces travaux, Bruno Hérault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue pour l'unité forêt et société au CIRAD et vous nous parlez depuis l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où vous travaillez également. Alors qui dit forêt dit forcément champignons et bactéries symbiotiques, l'un ne va pas sans l'autre, Bruno Hérault.
Oui, tout à fait. En fait, les symbioses sont constituées de micro-organismes qui sont intimement associés aux racines des arbres et qui vont aider les arbres à exploiter les nutriments organiques, inorganiques et même les nutriments atmosphériques qui vont permettre aux arbres de grandir.
Alors, dans le sol, concrètement, comment est-ce que se fait l'association? Est-ce que les organismes fusionnent complètement? Comment ça se passe au niveau microscopique?
En fait, il y a différents types de symbioses. Il y en a trois grands types. Il y a les symbioses endomycorhiziennes qui vont pénétrer à l'intérieur des racines des arbres, les ectomycorhizes qui ne pénètrent pas les parois cellulaires mais qui vont simplement entourer les racines de l'arbre en formant un manteau de mycélium. Et puis le troisième type de symbiose auquel nous nous sommes intéressés sont les bactéries fixatrices d'azote qui vont avoir la capacité de fixer un azote atmosphérique pour le transformer en molécules assimilables par les arbres.
Alors pourquoi est-ce que cette carte mondiale des symbioses d'arbres que vous publiez et qui fait la une de la revue Nature était importante? Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir en plus aujourd'hui?
En fait, c'est une ambition scientifique qu'on avait depuis plus d'une trentaine d'années et qui correspondait à une hypothèse de David Reed émise en 1991 sur la répartition globale des symbioses. Ce qu'on a vu avec ce travail, c'est qu'on va retrouver les ectomycorhizes dans les climats froids, où la décomposition de la matière organique est très lente, alors que les endomycorhizes à arbuscules, on va les trouver dans les climats tropicales humides chauds. Et enfin, le dernier type de symbiose, les bactéries fixatrices d'azote, ils vont avoir une aire de répartition très restreinte au climat aride et chaud.
Donc ce qui est important, c'est ça, c'est que ce soit lié au climat et que bien sûr le climat change?
Tout à fait, absolument. Un deuxième résultat très important, c'est que les ectomycorhizes ne constitue que 2% des espèces végétales, et on s'est rendu compte à l'aide de cette cartographie qu'en fait 60% des arbres sur Terre sont des arbres à ectomycorhizes. Donc malgré leur niche évolutive très restreinte, en fait c'est un succès évolutif majeur.
Alors ceux qui ont bien réussi là, les ectomycorhizes, rappelez-nous, c'est ceux qui rentrent dans la racine, c'est ça?
Non, c'est ceux qui restent à l'extérieur des racines et qui font un mycélium, une espèce de manteau, de manchon de mycélium autour des racines des arbres.
Alors, dans ce travail, vous allez un peu plus loin, puisque vous vous projetez jusqu'en 2070, dans un monde qui, bien sûr, s'est réchauffé. Qu'est-ce qui va changer pour ces champignons en particulier et pour les forêts de la planète, alors?
Voilà, donc on fait un exercice de modélisation, de simulation, pour comprendre comment ces associations pouvaient être modifiées avec les changements climatiques en cours. On s'est situé dans un scénario qu'on appelle le RCP 8.5, c'est-à-dire le scénario historique d'augmentation des températures. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'en 2070, on a globalement 10% des ectomycorhizes qui disparaissent de la surface de la planète et qui sont remplacés par d'autres types de symbioses.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les forêts et pour le climat, ces ectomycorhizes qui disparaissent?
Alors les ectomycorhizes, en fait, elles sont très intéressantes pour le climat pour plusieurs raisons, pour trois principales. La première, c'est qu'elles accélèrent la vitesse de la photosynthèse en réponse au carbone atmosphérique. Ça veut dire qu'elles vont augmenter l'entrée de carbone dans les écosystèmes. La deuxième raison, c'est qu'elles inhibent la respiration du sol par les micro-organismes décomposeurs. Et donc, de ce fait, elles vont diminuer les sorties de carbone de l'écosystème. Et la dernière raison, c'est qu'elles ont tendance à favoriser des arbres qui produisent une litière qui va se décomposer très lentement. Du coup, sans les ectomycorhizes, globalement, le cycle du carbone est plus rapide et les stocks de carbone dans les sols diminuent. On peut dire en fait que les ectomycorhizes, ce sont des sortes de tampons qui limitent l'impact de l'augmentation de carbone liée aux activités humaines.
Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, ce nouveau cycle, j'ai envie de dire, néfaste pour le climat avec la disparition de ce type de champignons ?
C'est quelque chose qui était soupçonné parce qu'il y avait déjà eu des expérimentations de transplantation d'arbres de zones tempérées vers des zones plus froides et on voyait que globalement il y avait moins d'ectomycorhizes, mais c'était pas un résultat qu'on avait à une échelle aussi globale.
Donc ça, c'est une modélisation à l'échelle de 2070, c'est ça, avec une augmentation de température de 8,5 degrés. J'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, Bruno Héroux.
Non, c'est pas exactement ça. C'est le forçage radiatif, oui, qui est de 8,5. C'est un des scénarios du GIEC. Mais c'est concrètement, ça veut dire c'est le scénario historique.
Alors là, on a parlé un petit peu des zones tempérées qui vont se réchauffer, mais les zones tropicales déjà chaudes, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un climat encore plus chaud, mais pas forcément moins humide ?
Alors ça, c'est toujours une question qui est compliquée à traiter, parce que, pour savoir que peuvent devenir des zones tropicales avec des températures moyennes qui dépassent 30, 32, 33 degrés, il faudrait avoir des écosystèmes qui sont déjà soumis à ces conditions climatiques et on n'en a pas trop sous la main. Donc on en est réduit à faire des projections à partir de modèles, et notamment de modèles physiologiques. Et le modèle le plus robuste, c'est le modèle de la photosynthèse. Et on voit que l'efficacité, la performance de la photosynthèse diminue au-delà d'une température comprise entre 30 et 32 degrés. Donc ça veut dire que globalement, ces zones tropicales qui vont devenir plus chaudes vont avoir des niveaux de productivité, de croissance des arbres qui va diminuer.
Merci beaucoup en tout cas Bruno Héroux pour ces explications. Publication à la une de Nature et vous étiez en direct de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Axel. À demain.
À demain, Mathieu.